Aujourd'hui, c'est une rencontre où nous accueillons un visiteur à la fois extérieur, en fait, à Lille, qui ne vient pas très loin, mais qui vient quand même du nord-est du département. Mais en même temps, je suis un petit peu embarrassé de l'accueillir parce que, à la limite, il est ici chez lui, puisque nous sommes ici, donc sur un espace naturel sensible, donc tout ce domaine de la citadelle, le bois, Fort-Levé, la prairie, donc qui appartient au département. Et que le département nous met gracieusement à disposition. Donc, merci d'être là chez vous aujourd'hui, à nos côtés. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'identité vendéenne. D'où vient cette identité vendéenne? Quels en sont les ressorts actuels? Comment on peut imaginer donc l'évolution du département? Et nous faisons ça donc avec Guillaume Jean, qui est premier vice-président du conseil départemental. Donc, rapide présentation de Guillaume Jean. Après avoir fait ses études donc, en fait, à la faculté de droit de Nantes, Sciences Po, et après un début de carrière dans le privé, plutôt côté financier, en fait, audit. Et puis, à un moment donné, donc, en fait, un choix de venir travailler en Vendée, sachant que la maison familiale, en fait, est une maison donc dans le nord-est du département. C'est Malœuvré, le nom de la commune? Malièvre, voilà. Donc, Guillaume Jean donc vient travailler donc pour l'établissement, enfin créer l'établissement public foncier de Vendée, donc dont il sera le directeur pendant 12 ans.
12 ans.
Voilà, pendant 12 ans. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, l'envie d'assumer des responsabilités politiques vient, et d'abord donc maire de
Malière.
Malièvre, et puis après donc président de Malièvre, qui est une toute petite commune, hein, 230 habitants, très rurale, mais en même temps quand même au centre effectivement d'une communauté de communes dont il est aujourd'hui président, donc qui réunit quoi à peu près 20 000, 25 000 habitants,
30 000 habitants.
30 000 habitants, donc et très très dynamique avec un tissu de petites entreprises, et ça fera partie justement un peu de ce que vous nous direz, donc un peu sur ce lien entre le rural en fait et l'industriel. Donc, en fait, à petite échelle. Et Guillaume Jean, donc, au sein du département, préside en fait une commission qui est la commission culture, patrimoine et relations internationales. Hein. Et en même temps, donc, en fait, il est président du comité départemental du tourisme de la Vendée, président de Vendée Expansion, donc très tourné vers l'accompagnement, donc, en fait, des entreprises et pas seulement dans le tourisme, mais d'une manière générale, donc, et le développement économique de la région. Voilà, j'ai tout dit à peu près.
Presque.
Presque. Bon.
Non, non, vous avez tout dit.
Bon.
Merci.
Donc, vous pourrez compléter. Donc, aujourd'hui, sur ce sujet. Donc l'identité vendéenne, c'est le département de Vendée, donc est-ce un département, est-ce plus que ça, un territoire, une région, est-ce les deux à la fois, et certainement en tout cas en fait un des départements français qui a le plus forte notoriété et surtout la plus forte identité. Alors cette identité évidemment, donc en fait elle vient en fait des guerres de Vendée, dont le Puy du Fou, donc autre réussite en fait économique, donc en fait du département et culturel, donc entretient et magnifie la mémoire, mais elle vient aussi effectivement du Vendée Globe, qui voilà donc qui nous fait vibrer et bien au-delà effectivement du département et même de la France, donc en fait tous les 4 ans. Donc à accompagner donc ces navigateurs donc audacieux. Donc aujourd'hui, comment, là, en quelques mots, en fait, vous synthétiseriez cette identité de ce territoire, à la fois très attaché, en fait, à ses traditions et en même temps très tourné vers la modernité et l'esprit d'aventure?
Alors merci d'abord pour votre invitation. Vous disiez que je suis un peu chez moi aussi, je suis un peu Carole Laure et ma collègue conseillère départementale est aussi chez elle. Je disais à Carole parce que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, elle m'a dit qu'elle passerait peut-être. Et très heureux d'être à Lisieux pour vous parler de la Vendée, de l'identité vendéenne. C'est vrai que c'est un département, enfin un des départements de France qui est connu pour avoir une identité. Et si on en parle, c'est parce que cette identité, elle produit, elle a des effets, elle produit des effets, et ce n'est pas simplement le folklore. Parfois, on résume l'identité d'un territoire à son folklore, à ses danses, à sa musique, etc. Ce qui est important aussi, d'ailleurs, pour répondre à votre question, pour essayer de... On a longtemps essayé de mettre, définir l'identité vendéenne, de la mettre dans un bocal, etc., puis de la montrer aux gens, voyez ce que c'est, etc. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'il y a quelques années, à l'ICES, il y avait eu cette tentative de créer un cours ou un enseignement pour essayer de résumer de façon un peu scientifique l'identité de la Vendée. Et puis on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué. Et je pense que si vous demandez aux Vendéens que vous croisez, qu'ils soient ilais ou pas, vous pourrez avoir des réponses différentes. Parce que pour chacun, la Vendée, c'est quelque chose de différent. Et donc, quand on fait cet exercice-là, quand on essaie de répondre à cette question, on essaie de trouver le socle, l'invariant qui fait que chaque Vendéen ou extérieur à la Vendée qui regarde la Vendée avec intérêt pourra dire « oui, je suis d'accord avec cette définition ». Et donc, évidemment, il y a ce que vous évoquez, c'est-à-dire ce lien un peu entre tradition et modernité, mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs. Je pense qu'il y a évidemment la fierté. Je pense que, et ça, on s'en rend compte pas quand on est Vendéen, quand on sort de la Vendée. Je me souviens une fois d'avoir été dans un restaurant en Loire-Atlantique, et puis on parle un peu avec... avec le gérant, puis elle me dit, je lui demande comment ça se passe, parce que je m'occupe du tourisme, alors je demande toujours, comme je l'ai fait hier soir sur le port, comment se passe la saison, et puis il me dit, moi ça va bien, et puis près du Croisic, et puis j'ai des cuistots qui sont vendéens, alors ils sont fiers d'être vendéens, ils sont chauvins comme pas possible, et donc il y a ce côté, quand on est en dehors de la Vendée, on se définit comme Vendéen, et les gens sont plutôt fiers d'être Vendéens. Je dis ça parce que ça n'a pas forcément toujours été le cas. C'est pour ça que c'est intéressant de le dire. Et sur l'identité, je pense que s'il faut résumer autour d'une expression ce qui fait l'identité de la Vendée, je pense que c'est le collectif et le faire ensemble.
Ok, alors ce collectif et ce faire ensemble, en fait, il s'est évidemment manifesté de manière très forte et très violente donc pendant les guerres de Vendée. Mais est-ce que les guerres de Vendée sont à l'origine de cette identité, ou est-ce que préexistait déjà un esprit de combativité, de résistance, ou ça a été véritablement un déclencheur?
Alors. Je ne vais pas apporter une réponse scientifique, peut-être que Jean-François Henry voudra le faire tout à l'heure, et il sera mieux armé que moi pour ça. C'est vrai que, vous savez, je parlais de l'Historial de la Vendée. L'Historial de la Vendée, c'est un musée qui a été créé au Luxembourg-Boulogne en 2005, et qui a toujours pour vocation de raconter aux Vendéens, comme aux visiteurs, l'histoire de la Vendée, mais sur le temps long, puisqu'on commence à des époques très très lointaines, préhistoriques. On sait que, alors, on parlait de les dieux, mais aussi les mégalithes sur le sud du département. Enfin, il y a une empreinte forte qui est très ancienne. Mais quand on veut expliquer le dynamisme, la réussite de la Vendée, on puise souvent aux sources du traumatisme de 1793. Ce qui est intéressant, c'est pas en soi, bien sûr, le soulèvement vendéen, mars 93, la volonté d'extermination, ensuite, qui a marqué 1794. Je pense au travail qui est fait par le souvenir vendéen, M. Dubucheron est là pour en témoigner. Mais donc il y a ça, et ensuite, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et je pense que le ressort principal du dynamisme vendéen, qui s'est traduit, pour moi, qui se traduit par cet élan collectif, cette volonté de faire ensemble. Quand on dit faire ensemble, ça veut dire qu'on passe pas notre temps à se tirer dans les pattes et dire quel est le dénominateur commun qui fait qu'on va pouvoir aller faire quelque chose ensemble, avancer et et déplacer les montagnes. Et donc cette forme de résilience et de rebond sans s'enfermer dans une logique mortifère de victimisation en disant ben on a beaucoup souffert du coup il faut que l'État nous donne de l'argent parce que c'est pas normal, etc. Et donc dans une logique de récrimination, de revendication permanente, pas du tout. La Vendée, 300 000 morts. La Vendée s'est reconstruite. Alors, quand on dit la Vendée, c'est pas que le département de la Vendée, parce que même donc, la guerre de Vendée n'a pas touché la Vendée départementale de la même façon, hein, entre le sud et le nord, entre le bocage et le littoral. Et d'ailleurs, la Vendée militaire, c'est bien au-delà, ça va jusqu'à la Loire. Et donc, on retrouve aussi dans ce qu'on appelle l'identité vendéenne aujourd'hui, on partage des bouts d'ADN avec ces territoires voisins qui ont vécu le même traumatisme. Et donc c'est aussi pour ça qu'on fait le lien entre la guerre de Vendée et l'état d'esprit ou l'identité vendéenne, parce qu'il y a eu ce traumatisme commun. Et donc on retrouve notamment dans le dynamisme économique, dans la volonté de faire ensemble, le bénévolat. On retrouve ça aussi dans les territoires voisins, même si j'estime aussi que sur un terreau commun, après, il y a des branches différentes peuvent pousser. Mais en effet, je pense qu'on peut, associer ça. On peut associer l'identité vendéenne qui puise ses sources dans le drame de 1793 et surtout dans le rebond, la résilience qui en a suivi au cours du 19e siècle. Les Vendéens ont beaucoup donné pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Certains disent que c'était une forme de réconciliation sous le drapeau tricolore. Et puis ensuite, bien sûr, le développement économique, qui est plutôt le boom économique, qui est plutôt post-Seconde Guerre mondiale.
Alors là, on en parlera, bien sûr. Maintenant, alors, ce qui a été évidemment, donc, en fait, un peu le ferment, effectivement, de cette résistance, c'était le catholicisme, la défense de la religion par rapport, en fait, à la République. Ça a été aussi la résistance, on peut être au pouvoir central. Et est-ce que ces deux caractéristiques, 235 ans, en fait, après, c'est, enfin, non, 232 ans, en fait, attendez, 1793, oui, 2025, après ces événements, qu'est-ce qu'il en reste? Quel est le poids, en fait, aujourd'hui, encore du catholicisme, en fait, dans ce département, dont le blason, et ça a fait polémique, effectivement, est aussi un blason, donc, en fait, avec le cœur, en fait, le double cœur, en fait, la croix, qui a encore, en fait, aujourd'hui, je crois, plus de 50% de ses enfants scolarisés dans des écoles privées. Quel est le rapport, en fait, aujourd'hui, en fait, dans ce département, entre la religion et la République? Donc, on n'est pas en Alsace, en fait, Lorraine, mais voilà. Comment vous le décririez aujourd'hui?
Alors, sur ces deux critères, alors c'est vrai que y a eu beaucoup de recherches, d'écrits. Hein. Alain Gérard a beaucoup travaillé sur ce sujet. Il faut se dire que au cours du 19e siècle, il y a eu la Vendée a donné beaucoup de missionnaires qui sont partis dans le monde entier. Donc il y a beaucoup de congrégations religieuses dont on trouve encore des traces. Mais évidemment, il y a eu l'effondrement en Vendée comme ailleurs en France ou en Europe. Alors ce qu'Alain Gérard rappelle, l'effondrement de la chrétienté paroissiale dans les années 60. Et c'est vrai que quand on regarde, je pense au travail de Guillaume Cuchet sur le sujet, il faut se dire qu'on avait dans les années 50 en Vendée un taux de pratique religieuse qui était extrêmement important. Voilà, c'était donc pratique dominicale, etc. C'était très fort. Et assez rapidement. Donc, quand je dis c'est très fort, c'est donc il y a la pratique et puis il y a la place du clergé dans la vie quotidienne, les patronages, donc l'école publique contre l'école privée dans certaines communes. C'est vrai que et là la Vendée est composite, différente. C'est vrai que dans mon secteur, il y a beaucoup de communes où il n'y a pas d'école publique. Voilà. Ce qui explique, c'est la tradition. Je pense qu'on est à 52 ou 54% de Vendéens qui sont scolarisés dans le privé. À l'échelle nationale, on est à beaucoup. Ouais, c'est, voilà, c'est, donc c'est des écarts qui sont très significatifs. Néanmoins, aujourd'hui, c'est on a plus la présence de l'Église est normalisée par rapport à ce qu'elle peut être à peu près par rapport au reste de la France, même si on a encore un taux de pratique religieuse qui est peut-être un peu supérieur, mais ça se normalise. Et pour reprendre l'analyse d'Alain Gérard, lui il dit que en fait c'est le tissu associatif qui s'est emparé un petit peu de ces valeurs-là d'entraide, etc., et qui a pris le relais et qui a fait la jonction. Et il explique comme ça que notamment la dimension associative liée au bénévolat et au don de soi. Il y a un exemple qui m'a toujours frappé, c'est que il a analysé un petit peu il a fait une cartographie sur le Grand Ouest, la carte du don du sang. Et il remarque que ce soit en Bretagne, mais aussi en Vendée et sur ce que certains appellent la Grande Vendée, il y a un taux de don du sang. Donc il y a plus proportionnellement plus de personnes qui donnent leur sang que dans le reste de la France. Voilà. Et donc il fait ce lien parce que finalement dans l'identité, dans l'état d'esprit vendéen, je pense que, et dans le bénévolat, le don donner de soi sans contrepartie financière, etc., avec d'autres contreparties qui sont immatérielles, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui fait partie de notre ADN. J'avais trouvé que cette illustration par le don du sang était riche de sens.
Alors, dans ce qui s'est passé pendant les guerres de Vendée, il y avait évidemment l'attachement en fait à cette religion qui était mise à mal, mais il y avait aussi la résistance contre un pouvoir central lointain. Et est-ce que nous sommes ici sur une île, et est-ce que historiquement, et même encore aujourd'hui, la Vendée ne s'est pas considérée aussi comme un territoire un peu insulaire, avec tous ces bocages, marécages, en fait donc très loin des grandes agglomérations et des métropoles ?
Alors, je pense que les Vendéens du continent n'ont pas la tête aussi dure que les Vendéens de l'île-Dieu.
Merci pour...
Je dis ça pour ma collègue. Ouais. Néanmoins, il y a... ça, c'est un trait récurrent et qu'on retrouve aujourd'hui. En gros, l'État, alors au début c'était la République, maintenant c'est l'État, n'a rien fait pour nous aider, et finalement on va faire sans. Donc le réflexe c'est de dire on n'attend pas que l'État vienne résoudre nos problèmes par des subventions, etc. Et donc on essaye de faire sans et avec les forces vives locales. Je disais tout à l'heure, en tant qu'élu départemental, vous savez que parfois le département accorde des subventions à des associations pour des événements sportifs, culturels, des tas de choses. Et moi, je fais souvent la remarque au maire de mon canton en disant on peut aussi vous aider parce que les associations n'ont pas forcément chez nous le réflexe de demander de l'aide au département parce que ce sont les entreprises qui sponsorisent, qui sont partenaires, et donc l'argent public n'a pas besoin, et c'est très bien d'être mobilisé là-dessus. Et donc ça fait partie aussi de cette solidarité et de dire voilà, on va pas chercher la subvention, on se débrouille, et puis si jamais on peut pas, on va activer le signal d'alarme. Mais il y a cette très très clairement, hein, c'est dans différents domaines, que ce soit dans le domaine économique ou dans d'autres domaines, à un moment donné, je donne l'exemple, un exemple récent d'actualité, quand Alain Leboeuf est devenu président du département, on avait ce sujet de l'autoroute entre Fontenay et La Rochelle, qui était un serpent de mer, avec les interventions de Ségolène Royal, à l'époque ministre, qui avait fait planter le projet. Il y avait une déclaration d'utilité publique qui avait été lancé, Dominique Bussereau, président du département de Charente-Maritime, enfin un dossier qui vasouillait depuis des années. Puis à un moment donné, on s'est dit, bah écoutez, si on n'y arrivera jamais, on n'aura jamais d'autoroute. Il y a des contraintes environnementales qu'on n'avait pas il y a 20 ans. On va faire une trois voies. Et puis, sans attendre le blanc-seing de l'État pour le faire. Et donc c'est un exemple. Mais ça traduit bien cette idée que si on veut avancer, ben on se retrousse les manches et puis on y va. Et surtout, on essaie de faire jouer le collectif, parce qu'évidemment, sur un tas de sujets, enfin, je veux dire, on a tous des avis sur plein de sujets, on peut tous avoir, c'est comme chaque Français est un peu sélectionneur de l'équipe de France, ben on a tous des avis différents sur plein de sujets. Et donc forcément, plus on est nombreux autour d'une table, plus on a de sujets différents. Et donc là, il faut qu'on se dise, ben voilà, pour avancer, on essaie de raboter un petit peu les disparités, ce qui fait que on peut trouver des points de désaccord sur pas mal de choses, et puis on avance. Et ça, je pense que c'est aussi important.
Alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que vous nous disiez justement comment concrètement ça s'est traduit dans ce qu'on peut appeler quelque part un peu le miracle économique vendéen par rapport à ce département qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, était quand même un département rural, en fait, assez pauvre, et qui, à rebours, effectivement, de ce qui s'est passé dans les autres départements français, est un département dont le taux d'industrialisation n'a jamais cessé, effectivement, de croître, et avec, effectivement, des indicateurs très au-dessus de la moyenne nationale, en termes de richesse moyenne par habitant, en termes, en fait, de faiblesse du taux de pauvreté, en fait, de faiblesse du taux de chômage. Voilà, quels ont été, alors j'imagine que c'est un mix, mais les ressorts, vous parliez effectivement de cette conscience collective, cette cohésion sociale, les impulsions politiques peut-être aussi, mais les ressources naturelles, voilà, quelles sont les clés du miracle économique vendéen, si on peut employer ce terme.
Oui,
qui est un terme religieux, en fait.
Oui,
encore.
C'est ça. Moi, je récuse un petit peu ce terme, parce que qui dit miracle dit intervention divine et dit. Et donc, ça veut dire qu'on n'y peut rien, quoi. On a mis un cierge et hop, c'est tombé comme ça. Et en fait, pas du tout. On dit miracle parce que, a priori, rien ne pouvait laisser entendre que un département comme la Vendée puisse comme ça se développer avec un tel dynamisme sur un temps relativement court, parce que la Vendée a peu connu la première révolution industrielle de la fin du 19e siècle qu'on a connue dans d'autres régions de France. C'est pour ça qu'on a peu de patrimoine industriel. Alors là, s'il y a une cheminée en briques, là, genre, je ne sais pas, l'or, ce qu'il y a dessous.
Certains peuvent l'expliquer.
La conserverie, voilà. Mais sinon, à part ça, on est plutôt sur quelque chose de postérieur à la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a quand même quelque chose qui est intrinsèque, c'est un dynamisme entrepreneurial. Avec cette volonté de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, pour reprendre cette expression-là, et de développer, d'être créateur de richesses. Mais sinon, faut quand même se dire, même si sur la plaine, donc le sud du département, il y a des ressources, on a des terres agricoles de bonne qualité qui permettent d'avoir une agriculture très, très productive en termes céréaliers, etc. Mais sinon, on est sur un département plutôt pauvre, sans axe de communication. À l'époque, en plus, avec un tourisme qui était très peu développé, on rappelle souvent que dans les familles qui avaient des propriétés sur le littoral, c'est la plus mauvaise part, c'était la part sablonneuse sur le bord, parce qu'on pouvait rien y faire pousser. Alors, les choses se sont renversées de façon considérable par la suite, mais en soi, la Vendée, elle cochait pas toutes les cases qui pouvaient laisser augurer d'un développement économique important. Donc évidemment, à la base, il y a cet entrepreneuriat, cette cette volonté de se développer et puis d'être créateur de richesses, mais ensuite il a fallu accélérer les choses. Bien sûr, il y a eu le désenclavement, le premier désenclavement qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, vous savez, on parle du zéro artificialisation nette, c'est-à-dire qu'on ne peut plus consommer d'espace. Mais s'il y a eu le ZAN dans les années 80-90, la Vendée ne serait pas celle que vous connaissez aujourd'hui. Donc le désenclavement, c'est ces fameuses autoroutes là qui traversent la Vendée pour se rejoindre aux Essarts et qui ont permis aux entreprises vendéennes existantes déjà de se développer, d'aller vendre leurs produits et puis de pouvoir réceptionner les marchandises de leurs fournisseurs de façon rapide. Voilà, c'est comment est-ce qu'on rentre dans la mondialisation et une économie de marché qui a ses règles et sans lesquelles on peut pas se développer. Donc ça, c'est un premier désenclavement. Il y a eu le désenclavement numérique qui a été lancé peu après. Aujourd'hui, en Vendée, tout le monde a la fibre. Je pense qu'à Lidieu, vous pouvez tous avoir la fibre chez vous. Enfin, j'espère. Cette capacité aussi à attirer des entreprises dans les années 90, avant d'expansion. Alors, on a un peu changé de modèle économique pour des raisons réglementaires et juridiques, mais on a été chercher des fleurons de l'industrie manufacturière. Je pense à Vuitton, par exemple, qu'on a fait venir en Vendée, et puis permettre aux grosses entreprises de l'agroalimentaire que vous connaissez, Fleury Michon, l'Amicaline. Et puis au fleuron de la plaisance, Jeannot Beneteau, etc., de se développer. Donc, et ça, ce qui est important de dire aussi, c'est que quand on parle de ces fleurons de l'économie vendéenne, ça reste finalement la partie émergée de l'iceberg. Parce que finalement, ça, c'est assez peu représentatif du tissu économique vendéen qui est fait vraiment de petites et moyennes entreprises. Autant on a un département avec 80% de communes qui ont moins de 3000 habitants, et on a aussi sans doute plus de 80% des entreprises qui ont des entreprises de moins de 20 salariés et qui sont souvent soit sous-traitants d'entreprises locales, mais qui sont aussi souvent positionnés sur des secteurs de niche qu'on ne connaît pas du tout. Moi, en tant que président de communauté de communes, tous les mercredis matin, je visite des entreprises de mon territoire, il y a plus de 1000 entreprises, et j'en ai toujours frappé. D'abord, on est toujours frappé quand on visite notre entreprise de la passion du chef d'entreprise, et ça c'est extrêmement communicatif, et puis se dire bah voilà, on rencontre une entreprise qui fait de la joaillerie et qui exporte à l'international, alors évidemment avec la discrétion qu'impose un tel métier, qui font des produits pour les cuisines industrielles, et le chef d'entreprise dit j'ouvre un bureau au Canada la semaine prochaine. Enfin, c'est assez incroyable, et on est tous bluffés, et en tant qu'élu on a beaucoup de respect pour ces gens là qui font vivre la Vendée et qui parfois ont du mal à recruter, tel vous parliez du taux de chômage. Alors en Vendée, on doit être à 5% en moyenne. Dans mon secteur, c'est plutôt 3%. Et donc aujourd'hui, notre travail à nous élus, c'est de faire en sorte que ces entreprises puissent continuer à se développer et à recruter avec les difficultés que ça pose en termes de logement, etc. Mais c'est des problèmes de riches, hein. C'est-à-dire que quand on rencontre d'autres élus, conseillers départementaux d'autres secteurs, ils me disent bah déjà vous avez cette chance-là. Eux, c'est comment est-ce que j'ai rencontré il y a pas très très longtemps le président de la Marne, enfin, c'est la Marne ou la Haute-Marne. Et il dit bah vous avez une agence d'attractivité pour accueillir, etc. Moi j'ai une agence pour faire en sorte que les gens ne partent pas de chez moi. C'est tragique. Donc on mesure à la fois la chance qu'on a, et notre responsabilité à nous, c'est de faire en sorte que cet écosystème perdure et puisse permettre à nos entrepreneurs de se développer, de gagner des marchés. Il y a aussi, quand je parlais de collectif tout à l'heure, c'est de dire aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont concurrentes, qui font le même métier dans l'industrie, etc., mais qui vont aller ensemble des marchés, aller trouver des marchés chassés en meute, aller trouver des marchés à l'international, à l'export, parce que c'est aussi, bien sûr, un vecteur de développement important.
Et alors, avec une caractéristique qui accompagne ce développement, qui est méconnue, enfin moi, que j'ai découverte et a priori qui m'a paru peut-être un peu contre-intuitive, c'est que la Vendée est le département de France dans lequel le taux d'inégalité sociale est le plus faible. Donc le plus de cohésion sociale, en fait, et de relation entre le revenu des 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Bravo.
Merci pour les applaudissements. Ouais. C'est vrai que c'est une fierté vendéenne. Je ne sais pas si nous, élus, on y peut quelque chose. Néanmoins, je pense que ce que je viens de dire, à savoir d'avoir un tissu de petites entreprises où finalement chaque chef d'entreprise peut appeler les gens, ses salariés par leur prénom. Donc il y a un lien de proximité, de fait, et qui fait que d'abord ça crée de la résilience. C'est-à-dire que quand une entreprise vit une période difficile, bah, c'est plus compliqué de licencier un salarié quand on le voit tous les matins et qu'on lui serre la main tous les matins que quand on est au 15e étage d'une tour à la Défense. Ouais, et qu'on ne connaît pas ses salariés. Et puis cette solidarité qu'on a entre les entreprises. Alors, on cite souvent la reprise de l'entreprise Gautier. Il y a quelques années où finalement, grosso modo, l'actionnaire veut virer le directeur et puis c'est toute l'entreprise. Et puis finalement, c'est le directeur avec l'appui de ses salariés qui rachète l'entreprise et qui se fait prêter presque dans la nuit par ses collègues de l'argent pour racheter l'entreprise. Et ça, c'est une belle aventure. Je pense que vous trouverez ça sur Internet. Je pense que dans l'entreprise, c'est important, ce rapport-là. Et puis, c'est le fait aussi que le bénévolat qui rajoute cette couche de lien entre les personnes fait que le bénévolat abolit aussi les rapports soit de revenus ou de classe sociale, et que, alors que ce soit chez moi au Puy du Fou ou dans une association sportive, que le patron et le salarié prennent une trousse-pinette ou un verre de bière ensemble et se tutoient. Et donc cette proximité là elle est me semble-t-il importante, mais bien sûr la richesse c'est les hommes et les femmes, hein.
Alors, vous, en tant que responsable politique, vous êtes responsable d'essayer, sinon de dessiner, mais du moins de projeter le département dans l'avenir. Donc, je sais qu'il y a quelques années, en 2018, vous aviez fait en fait un plan, je ne sais pas si on appelle ça un plan stratégique, en fait, 2040, en tout cas prospectif. Aujourd'hui, comment vous projetez dans ce monde, à la fois en pleine évolution, en fait, incertitude, donc, en fait, la Vendée, le territoire dont vous êtes, en fait, aujourd'hui responsable? Comment vous le projetez en fait à 15 ans de là? Quelles sont les lignes de force en fait vers lesquelles vous investissez en tant qu'acteur politique majeur, donc pour que le département puisse faire face à ses habitants, donc en fait aux défis de l'époque?
Alors dans la limite de nos moyens, bien sûr, oui. Hein, parce qu'évidemment la Vendée n'est pas une île et est frappée comme tous les autres territoires par les grands mouvements, les grandes tendance de fond. À l'époque, quand on a lancé Vendée 2040, c'était parce que l'INSEE annonçait 240 000 Vendéens de plus en l'espace de 20 ans. Et à l'époque, il y avait 600 000 Vendéens en Vendée, 600 000 habitants. Et donc, vous imaginez un tiers de plus en 20 ans, c'est ça de quoi bouleverser un petit peu et les choses et de se dire comment est-ce que on garde notre ADN vendéen avec une croissance démographique pour la plupart tirée par le solde migratoire, donc des gens qui viennent de l'extérieur. Mais il s'avère que ce scénario de l'INSEE c'est pas concrétisé, ce qui était plutôt une bonne chose parce que d'abord on a une capacité enfin je parlais de logement tout à l'heure, on a du mal à construire des logements et aujourd'hui si on réajuste les choses, je pense que c'est 760 000 habitants, mais plus à l'échelle de, en 2070, donc c'est beaucoup plus raisonnable. Et donc le sujet, c'est de dire qu'est-ce que, en fait, c'était pas temps de faire une analyse prospective. Vous savez qu'il y a, enfin, régulièrement dans la presse, on vous dit que sera la France en 2050, en 2060. J'avais vu un article du Figaro qui, grosso modo, disait en 2039, la France sera écolo et connectée. Et en général, en plus, les prospectivistes se plantent complètement. En 1994, il y avait, la région des Pays de la Loire avait fait un exercice de ce type-là. Et grosso modo, il fallait retenir que Internet ne servirait jamais à faire du business et que la France, nous, avait un atout formidable, c'était Minitel. Voilà. Bon. Donc nous, on n'a pas choisi de se dire voilà comment sera la Vendée dans 20 ans, mais se dire quelle Vendée on veut pour nos enfants, en fait. Voilà. Et donc, comment est-ce que tout ce qu'on vient de dire là sur les ferments de cohésion, d'identité, de dynamisme, on va pouvoir les conserver dans un monde qui change. On parle de la natalité, en France s'effondre, en Vendée pas moins qu'ailleurs. Comment est-ce qu'on gère tout cela sur le plan économique, la force. Je disais tout à l'heure, on est parti en famille dans les Côtes d'Armor pour les vacances. Il n'y avait plus de place à Lille-Dieu. Et donc on se dit, ça a l'air un département assez dynamique. Et puis donc du coup, j'essaie de faire des comparaisons entre deux départements. Et ChatGPT me dit que en fait, la Vendée a une chance de plus, c'est que l'économie dans les Côtes d'Armor, donc c'est le tourisme, c'est beaucoup l'agroalimentaire. Donc nous en Vendée, on a l'agroalimentaire, mais on a aussi beaucoup d'industrie. Et donc cette répartition de l'activité économique entre le tertiaire, l'agriculture et l'agroalimentaire et l'industrie, c'est une chance. Et je pense qu'il faut qu'on garde ça dans un monde où finalement... L'ISS à La Roche-sur-Yon a mis en place il y a quelques mois une chaire sur l'indépendance stratégique de la France et dans le cadre des financée par les entreprises vendéennes, ce qui est intéressant aussi à savoir. Et récemment, on intervenait sur une soirée sur plein de choses, notamment sur l'impact des sanctions sur la Russie dans le cadre du conflit avec l'Ukraine. Mais il y avait une partie donc sur l'impact du déploiement économique chinois sur l'industrie française et notamment l'industrie vendéenne, avec les menaces que ça fait peser sur notre industrie, notamment sur la robotique. On a à La Roche-sur-Yon Proxinov, enfin un centre de recherche sur la robotique qui est reconnu à l'échelle nationale. Et la directrice de Proxinov nous disait aujourd'hui les Chinois inondent le marché français avec des robots, des robots industriels à des prix cassés pour finalement casser le marché local et puis remonter les prix quand les entreprises locales auront mis la clé sous la porte. Donc on a des sujets comme ça. Donc là, c'est pas des sujets vendéens, mais sachant que, je vous le disais tout à l'heure, avec les limites qu'on a, nous, département, finalement, on n'a pas soit juridiquement des compétences pour faire des tas de choses. Et donc, pour moi, le plus important, alors on agit dans le cadre de nos compétences sur le social, sur les collèges, sur les routes, etc., mais sur la culture, bien sûr, mais c'est dire comment est-ce qu'on garde cet état d'esprit qui fait que les hommes et les femmes se redressent les manches et puis vont faire en sorte de garder cet esprit de conquête, finalement. Alors, le Puy du Fou exporte son activité en Espagne, en Chine, etc. Mais c'est dire, ben voilà, comment on garde ça et comment est-ce que on transmet cet état d'esprit aux nouveaux arrivants. Alors, c'est sûr que souvent, c'est l'école et l'association qui va avec, qui fait le lien. Voilà, mais pour l'essentiel des nouveaux Vendéens qui sont des retraités qui viennent sur le littoral, l'école, c'est moins leur sujet. Voilà. Donc il faut trouver des nouveaux ressorts et faire en sorte que voilà qu'on tire tous dans le même sens et qu'on avance et qu'on garde à la fois cette fierté qui est un moteur en soi.
Ok, alors ma dernière question avant de passer le micro au public, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions à vous poser. C'est bon, je me rappelle il y a quelques années dans le métro parisien, en fait, on voyait des affiches pour la promotion du tourisme en fait en Vendée. Et qu'est-ce qu'on montrait ? On montrait la chapelle de la Meule. Bon. Quel regard en fait on a vu de La Roche-sur-Yon et du département effectivement sur l'Île-Dieu? Est-ce que l'Île-Dieu sert effectivement donc un peu de fer de lance de l'attractivité touristique? Mais à part ça, est-ce qu'on considère que l'Île-Dieu c'est les irréductibles Gaulois de la Vendée? Enfin, quelle perception vous avez de l'Île-Dieu vu de La Roche-sur-Yon?
Non, mais l'Île-Dieu, vous demandez à tous les Vendéens, l'Île-Dieu, c'est un peu la pépite c'est la pépite vendéenne. Je fais pas la comparaison avec les voisins de Noirmoutier. On a une chance incroyable d'avoir l'Île-Dieu. Le sujet du tourisme. Alors, je vais essayer d'être politiquement correct sur un sujet comme ça. Non, mais tous les ans, dans la presse, au mois de juillet, au mois d'août, on a des articles sur le surtourisme. C'est un mot que j'aime pas trop parce que bon, ça concerne souvent qu'une petite période dans l'année. Néanmoins, on n'est pas Barcelone, on n'est pas le Mont-Saint-Michel, etc. Et on a cette chance-là. Stratégiquement, c'est de dire, évidemment, le tourisme, ça pèse. Le poids du tourisme dans l'économie vendéenne est important en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires, etc. Donc, nous, en tant qu'élus, on a besoin aussi de soutenir ces professionnels. Après, évidemment, il faut trouver cet équilibre-là. Voilà, c'est-à-dire, ça, c'est très politiquement correct de dire ça, mais c'est la vérité quand même. Et notamment sur la promotion. La promotion... alors je sais pas, peut-être que Laure pourra répondre à ça. Nous, enfin, Vendée Expansion, on assure la promotion de la destination Vendée à l'international et en France. Donc en fait, on veut faire venir des gens en Vendée pour passer leurs vacances le plus possible, si possible, en dehors du mois d'août. C'est ce qu'on appelle développer les ailes de saison. Voilà, donc j'espère que vous faites pareil, que vous venez au mois d'avril ou au mois d'octobre, c'est très bien aussi. C'est janvier, ben très bien. Voilà. Donc quand il y a moins de monde, mais on essaye quand même de trouver cet équilibre-là, ne serait-ce parce qu'il y a des gens qui vivent à l'année et donc qui veulent aussi trouver un... En fait, c'est comment est-ce qu'on respecte les souhaits des uns et des autres, c'est très compliqué. Mais on a aussi des territoires qui nous disent... les gens viennent, mais on n'a pas besoin d'en rajouter pour en faire venir encore plus, encore davantage. Voilà. L'Île-Dieu, c'est un peu ça. Voilà, donc ça veut dire que je ne pense pas que vous retrouverez la chapelle de la Meule bien dans le couloir de la gare Montparnasse. Mais Noirmoutier, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que finalement, l'attractivité touristique, elle se fait un petit peu par le bouche à oreille et il n'y a pas besoin d'en rajouter. Néanmoins, on a une forte pression des acteurs du tourisme parce que là, par exemple, vous voyez, on a une bonne saison touristique en Vendée, mais après, les professionnels, notamment de la restauration, constatent que les gens dépensent moins. Voilà. Donc il y a tout un débat, j'ai lu les articles cet été, les restaurateurs qui exagèrent dans les prix. On a des photos de menus sur la côte d'Azur avec j'ai retenu l'assiette de crudité carotte râpée à 14 euros, enfin des trucs comme ça. C'est pas le cas en Vendée, hein, je vous rassure. Mais néanmoins, il y a ce sujet-là, qu'un sujet à part, c'est-à-dire l'air de rien, on a vu ce qui s'est passé en Corse il y a quelques années. D'abord, des territoires qui arrêtent de faire de la promotion touristique, en fait, ils voient quand même assez nettement baisser leur fréquentation touristique. Et quand il y a des territoires, la Corse, c'est les deux cas. Donc à un moment donné, ils ont dit on arrête. Et donc les professionnels se sont plaints, les hôtels étaient pas vides, mais il y avait moins de fréquentation. Et puis, donc peu de promotion, peu de fréquentation. Et quand les professionnels exagèrent et qu'ils poussent les prix vers le haut, bah, les gens aussi font des arbitrages et donc ne viennent plus. Voilà. Donc il faut trouver cet équilibre-là. Mais on n'arrête pas de... Et promouvoir la destination Vendée, c'est aussi... c'est pas simplement faire venir des gens avec un panier moyen important ou pas, etc. C'est aussi promouvoir. Et ce qui me semble le plus important, c'est... moi, je dis ça à tous les professionnels du tourisme que je rencontre. C'est l'accueil à la Vendéenne. Voilà, l'accueil à la Vendéenne, c'est alors le sourire. Voilà. J'avoue que dans les Côtes d'Armor, j'ai pas toujours vu la banane. Ils sont pas tous la banane. Voilà. Et c'est important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est sur des territoires qui sont très touristiques, on voit beaucoup de touristes, bon, à un moment donné, on se lasse un peu. Mais on a beaucoup de meublés de touristes, de gîtes, de chambres d'hôtes, etc. Et c'est important, cette qualité de l'accueil, enfin, nous, on attache beaucoup d'importance, parce qu'on vit dans un beau pays, il y a des très beaux coins partout, dans toute la France, etc. Et donc, souvent, la valeur ajoutée, c'est l'authenticité et la qualité de l'accueil.
Merci beaucoup. Donc maintenant, la parole est au public. Voilà. Après ces applaudissements bien mérités.
Oui, bonjour. Depuis un grand moment, vous nous dites que tout va bien en Vendée. Qu'est-ce qui ne va pas bien ?
Alors, vous avez raison. Merci, monsieur. Merci pour cette question. C'est vrai que quand on est élu, on a toujours tendance à voir ce qui va bien, et puis à s'en gargariser un petit peu. Ce qui est très bien aussi, parce que ça booste un peu les batteries, et puis ça nous fait avancer. Non, bien sûr, il y a des choses qui... tout ne va pas bien, on n'est pas dans un... Rien n'est parfait, c'est pas le paradis terrestre ici en Vendée. Il y a des difficultés, alors elles sont de tous ordres. Et alors, j'allais dire, moi ce qui me... Quand on pose cette question, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est un sujet qui est traité par le département, c'est le sujet de l'enfance en danger. Alors ça, c'est un sujet qui est... Enfin, vous suivez l'actualité, ce type qui se fait filmer en train de subir des choses horribles, etc. Et en fait c'est un sujet... On est tous plus ou moins parents, grands-parents, etc. Donc, et pendant longtemps, on s'est cru un peu à l'abri de tout ça en Vendée. Parce que dans les années 80, il y avait un taux de divorce, de séparation des couples qui était inférieur à la moyenne nationale. Voilà. Et puis ça, on s'est fait rattraper par ça. Et donc on constate notamment des violences, alors les violences intrafamiliales dont on parle beaucoup, mais et nous on était en première loge, le département. Ça c'est quelque chose qui va pas bien, mais c'est pas propre à la Vendée. Je suis pas sûr qu'il y a des on sait que notre société dysfonctionne, voilà, et donc les malheurs que vivent certains territoires depuis des années, on les retrouve peut-être avec un peu de retard en Vendée, mais on les retrouve ici évidemment. Mais après, se dire que non, rien n'est parfait, il y a toujours des choses à... Alors je vous réponds comme ça, hein, c'est le premier sujet qui me vient à l'esprit. Tout à l'heure, quand je vous parlais de la mondialisation économique et de l'effet sur les entreprises vendéennes, je pense que c'est un sujet. Alors, ce dont on n'a pas parlé, tout à l'heure j'ai parlé bien sûr des tailles d'entreprises et beaucoup de PME, PMI, etc. C'est aussi le sujet des centres de décision. Voilà, c'est à un moment donné, on s'est demandé si sur Fleury-Michon, le centre de décision, il n'allait pas être à Paris plutôt qu'à Pouzauges. Et c'est extrêmement important de pouvoir avoir des centres de décision locaux plutôt que de laisser des personnes qui sont déconnectées de la réalité de terrain prendre des décisions qui ne les affectent pas directement. Mais voilà, moi c'est la réponse que je vous ai fait. Après, à réflexion, je pourrais vous trouver plein d'autres choses, hein, bien sûr.
Autre question, monsieur Jean-François Henry.
Oui, je voudrais rappeler simplement, vous avez évoqué l'identité et rappeler le rôle des frères de Saint-Gabriel dans l'éducation des Vendéens. Je crois que c'est vraiment fondamental et pendant pratiquement un siècle, presque tous les cadres vendéens sont passés par soit Saint-Laurent-sur-Sèvre, soit par les frères de Saint-Gabriel. Et nous sommes ici à quelques mètres de la maison qu'ils habitaient. Ils ont malheureusement quitté les lieux, mais ils ont joué un rôle essentiel de cohésion. Et l'esprit que vous soulignez à juste titre de solidarité, etc., est très certainement venu de leur enseignement très pertinent et fondamental. Ouais. C'est le point. Et le deuxième point, c'est sur l'avenir de l'Île-Dieu. Je suis inquiet de voir, il ne faudrait pas ne parler que du tourisme. Car le vrai problème de l'Île-Dieu, c'est de trouver du travail en dehors de cette activité, qui est une activité un petit peu extérieure. C'est-à-dire que ce qui faisait l'identité de l'île, notamment la marine et la pêche, n'existe plus. Alors, quoi ?
Bien sûr.
Que voir, voilà, c'est pour ça que je crois qu'il était bon de reposer cette question-là sur l'avenir de l'île.
Vous avez raison. Alors sur le premier... Étant moi-même passé par Saint-Gabriel, j'ai fait tout mon secondaire là-bas. Alors c'était dans les années 90, donc. Mais néanmoins, ce que vous dites est avéré. Alors c'est pour ceux qui connaissent pas Saint-Gabriel, donc c'est une congrégation de frères de Saint-Gabriel qui a été fondée dans la suite de. Des disciples du père de Montfort, Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, donc à Saint-Laurent-sur-Sèvre. D'ailleurs, ils sont partis donc en France, donc avec plusieurs établissements en France, en Vendée bien sûr, et puis à l'étranger. Donc aujourd'hui, je pense que le responsable de cette congrégation, il est indien, je crois. Et donc avec bien sûr une mission d'enseignement. Alors, c'était à l'époque, c'était beaucoup d'internes. Ils passaient 3 mois, voire davantage, notamment à Saint-Laurent-sur-Sèvre, pour ce que je connais. Et donc, ça a créé aussi un vrai ciment entre eux, une vraie unité entre ces jeunes qui étaient formés. Pendant longtemps aussi, beaucoup de chefs d'État africains envoyaient leurs enfants se former là-bas. Moi, j'ai eu un collègue qui venait d'un pays d'Afrique, un fils de ministre africain, etc. C'était très très réputé. Alors maintenant, ça a un peu changé, etc. Mais il y a toujours ce qu'on appelle cette fibre gabrielliste, avec une amicale dont les archives départementales viennent de récupérer le fonds d'archives. Voilà, il y a quelques semaines. Et donc pour ceux que ça intéresse, alors c'est vrai que Monsieur Henry a raison, et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la Vendée, on a un site quand même des archives départementales qui est remarquable, avec énormément de documents qui sont numérisés. Je pense qu'on a Thierry Ekman, qui a été directeur des archives départementales pendant longtemps, a beaucoup travaillé là-dessus, et on est un des départements de France, sinon le département de France, avec le nombre de documents accessibles en ligne qui est le plus important. Voilà. Et puis bien sûr sur le tourisme, l'idée. Surtout les territoires comme ça qui sont magnifiques, qui attirent du monde. J'imagine que l'idée, c'est de pas en faire des vitrines un peu figées. Et le développement économique, il est bien sûr. J'imagine que les îlets sont bien sûr contents de recevoir du monde l'été, etc. Mais le développement économique, alors je ne suis pas du tout spécialiste, c'est pour ça que je ne vais pas en parler, mais du Nil, alors je ne sais pas s'il y a d'autres références ailleurs, en France, en Bretagne, etc., où des îles réussissent à, si on met un peu le tourisme de côté, à avoir une activité économique qui permet bien sûr aux personnes qui vivent à l'année sur cette île de gagner leur vie, et puis peut-être aussi d'attirer des gens qui viendraient eux aussi profiter de cette manne économique pour vivre à l'année et en tirer un revenu qui leur permette de vivre dignement. Je ne sais pas, Laure, si tu as quelque chose à dire là-dessus.
Laure Barraud, conseillère départementale.
Oui, bonjour. En tout cas, merci Guillaume d'être venu à notre rencontre aujourd'hui. Tu es le bienvenu sur les lieux. Moi, ce que je peux en dire, c'est qu'effectivement, le tourisme, c'est aussi l'économie de l'île. On ne peut pas non plus aujourd'hui dire que ce n'est pas vrai. On travaille ensemble. Alors, je siège à la commission CDT Tourisme, dont tu présides cette commission, Guillaume. Et dans tous nos échanges, et ça, c'est vrai sur la Vendée, sur beaucoup de littoral, c'est de pouvoir dire comment attirer le tourisme sur toute l'année, enfin, au moins sur une bonne grande partie de la saison, pour faire en sorte que les emplois puissent, au lieu d'être sur une saison de 2 mois où on a beaucoup quand même d'affluence à cette période, hein, juillet-août, c'est de dire comment attirer les personnes, le tourisme, sur une plus grande aile de saison et pour éviter aussi de l'emploi précaire. Donc effectivement, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que les lieux ne vivent pas que de ça. Hein, je rejoins Monsieur Henri. Et il faut penser, il faut réfléchir. Après, les lieux, il faut savoir quand même que la mairie de l'île-dieu emploie c'est le plus gros employeur, hein, de l'île, avec à peu près 230-250 agents. Il y a de l'emploi sur l'île-dieu. Maintenant, tout est à penser. L'île-dieu est dynamique. À ce qu'on peut croire, voilà, même à l'année, il y a de l'emploi quand même à l'île-dieu. Et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que vous allez à Pôle emploi, il y a encore des annonces de recrutement, on n'arrive pas à recruter. Et je le dis encore parce qu'on me dit beaucoup, Laure, tu es conseillère départementale et il n'y a pas que l'île-dieu en Vendée. Si effectivement je défends le territoire, c'est que d'une, c'est une seule commune, un seul canton. C'est vrai que quand on est conseiller départemental représentant une quinzaine de communes, on n'a pas la même, la même ancrage, j'ai envie de dire. Donc ça, j'en ai pleine conscience. Et pour dire que l'île-dieu est dynamique toute l'année, mais ce à quoi on est confronté aussi, c'est le problème de logement. Donc, il y a de l'emploi à l'île-dieu. Le problème, c'est qu'on aimerait aussi pouvoir accueillir les personnes qui souhaiteraient venir travailler sur l'île. Et ça, c'est un sujet. Et donc, voilà ce que je peux en dire. Est-ce que Jean-François veut compléter Donc l'île-dieu sait accueillir, on vous le dit, on aime, on est très, on aime l'île. Le surtourisme, effectivement, c'est une question, c'est un mot, est-ce que vraiment on est en période de surtourisme quand c'est sur 15 jours où l'île-dieu est très, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Après, les infrastructures, ça sera la question aussi qui pourra se poser, est-ce que c'est adapté au niveau environnement et puis préservation, parce que quand même l'île-dieu c'est un petit joyau mais qu'il faut préserver quand même. Donc est-ce qu'il faut aussi faire attention à ce que est-ce qu'on puisse bien accueillir autant de monde sur l'île-dieu? Ça, c'est quand même un vrai sujet. Voilà, c'est les bateaux, c'est le nombre de rotations par dans la saison. Donc on veille à ce que on puisse accueillir, avoir un accueil de bonne qualité. Mais cela étant, les îlets, les habitants de l'île-dieu, on est content quand même quand la saison arrive, parce que ça fait vivre l'île-dieu. L'île-dieu revit, ressort les marchés. J'avoue qu'en fin de saison, là on le ressent, je le ressens un petit peu. Les saisonniers sont un peu fatigués. Il y a beaucoup beaucoup de monde, mais sachez que l'île-dieu, on aime les gens et t'as dit plein de mots que je ressortirai, je ferai un petit compte rendu, mais qui vraiment la solidarité, l'entraide et tout, c'est vraiment ce qui nous relie aussi avec l'identité vendéenne, même si parfois on a l'impression d'être un petit territoire à part. On est vendéen, oui, mais on a quand même cette culture ilaise ou très comme tu dis, ancrée avec on est isolé aussi l'hiver, donc on a des tempéraments de résilience. Voilà, merci.
Merci beaucoup.
Pour revenir à la Vendée et aux entreprises vendéennes, on dit qu'elles sont très peu syndicalisées. Est-ce vrai? Est-ce toujours vrai? Et si c'est toujours vrai, pourquoi?
Alors, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. il y a peu de conflits sociaux. D'ailleurs, un chef d'entreprise me faisait remarquer, il a un projet de, dans mon secteur, il a un projet de construction d'une nouvelle usine. Enfin, il avait un projet, le projet s'est concrétisé. Et je lui dis, pourquoi est-ce que tu ne vas pas, avec la difficulté qu'on a pour loger les nouveaux arrivants, pourquoi est-ce que tu ne vas pas investir ailleurs, là où il y a des taux de chômage importants et où les gens... pourrait trouver du travail. Il me dit, c'est parce que ces gens-là n'ont pas l'état d'esprit des salariés vendéens. Ça n'empêche pas qu'il va faire venir du monde d'ailleurs, mais c'était fort et il a fait investi il y a quelques années dans une entreprise près de Lyon, en Rhône-Alpes, et je lui dis, alors pourquoi tu pourrais développer là-bas? Il dit, non, parce que là-bas, en fait, il y a des mouvements syndicaux en permanence, difficulté à garder les salariés dans l'entreprise, c'est très compliqué. Et donc, pour ce chef d'entreprise-là, la solution, c'était simplement agrandir en Vendée, essayer de trouver des salariés sans trop piquer les salariés chez ses concurrents. Ça, c'est une réalité. Alors, il y a, bien sûr, les syndicats sont présents, Laurent sait quelque chose. Néanmoins, je pense que dans les entreprises où les syndicats sont présents, il y a quand même une culture du dialogue qui est importante. Et il n'y a pas d'opposition de principe, en fait. Voilà, tout à l'heure, j'évoquais le rapport salarié responsable, entrepreneur, patron, etc. Je pense que la taille des entreprises aussi est une explication, mais sur des petites, il y a beaucoup d'entreprises qui sont pas, notamment des petites entreprises qui, soit pour des questions de taille, de seuil, etc., ont pas de représentants syndicaux. Et j'ai pas l'impression que dans ces entreprises-là, où parfois il y a des représentants de personnel mais qui sont pas forcément affiliés à un syndicat, qu'il y a plus de problèmes qu'ailleurs. Donc ça c'est une réalité, mais...
Et toujours à propos des entreprises et la stabilité d'un système avec beaucoup de composantes, qu'est-ce qu'elles ont en commun, en particulier du côté compétences, formation, et est-ce que ça se limite à la Vendée ou est-ce que ça touche d'autres zones et peut-être la région?
Alors, tout à l'heure... On posait la question des perspectives, etc. C'est vrai que on peut pas parler de développement économique sans aborder l'aspect formation. Voilà. Et on essaye, le département essaye aussi d'attirer des établissements de formation pour pouvoir finalement former les emplois, les salariés de demain avec bien sûr. Des compétences qui évoluent, etc. Donc comment est-ce qu'on adapte notre appareil de formation, notre outil de formation aux souhaits des entreprises? Donc ça, c'est une préoccupation qui est constante. Ça ne veut pas dire qu'on veut empêcher les jeunes Vendéens de partir faire leurs études ailleurs, etc. Mais essayer bien sûr de répondre aux aspirations des jeunes et en même temps de répondre aux besoins des entreprises, sachant que je l'ai dit tout à l'heure, on a quand même dans l'industrie des besoins. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'on travaille dans l'industrie sur des métiers manuels qu'on est mal payé. Ça, c'est aussi, y a des idées reçues qu'il faut balayer. Et donc notre travail à nous, c'est aussi de favoriser l'implantation de structures de formation. On a, je pense qu'on doit être, on doit avoir le record de France, notamment d'implantation de maisons familiales rurales. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est quelque chose qui fonctionne très bien sur des tas de métiers différents. Hein. Ça va de la restauration, la boulangerie, les métiers du cheval, les services à la personne, etc. Et là, on a des structures qui sont en milieu rural. Je ne sais pas s'il y en a encore une à l'Île-Dieu, une MFR, non? Et en fait, l'internat est obligatoire. C'est à partir de la quatrième, je crois. Et ça forme des générations de jeunes Vendéens sur des métiers. Et en plus, il y a cette pédagogie. Tout à l'heure, Jean-François Henri parlait de Saint-Gabriel et de la formation. Mais dans les maisons familiales rurales, il y a aussi un état d'esprit qui fait qu'on apprend aussi un peu les jeunes à être autonomes, à faire son lit le matin. Voilà, c'est pas le service militaire, mais c'est à vivre ensemble. Et c'est des vraies écoles de vie. Moi, souvent, quand on parle de formation, je parle des MFR. D'abord parce qu'il y a une spécificité vendéenne là-dessus. Alors, sur certains métiers, hein, bien sûr, pas sur tous les métiers, parce qu'on n'est pas sur de la formation supérieure. Mais il faut les deux. Alors, il faut les MFR. Et puis donner, bien sûr, je parlais des aspirations des jeunes, donner aux jeunes qui ont des projets ambitieux. Il y a une association qui s'appelle de la Vendée aux grandes écoles. S'il y a des mécènes parmi vous qui veulent soutenir cette association, c'est vachement bien parce que ça permet d'accompagner des jeunes qui ont des souhaits. Donc, il y a des bourses qui sont mises en place pour ceux qui s'engagent dans des parcours sélectifs après le bac et pour éviter parfois l'autocensure qu'on rencontre parfois dans les milieux ruraux où on dit bah non, toi t'es pas fait pour ça, tu vas rester à la maison. Et puis voilà. Donc, le sujet de la formation, c'est un sujet clé. J'ai parlé de l'ICS tout à l'heure.
Mais c'est quoi cette école? Parce qu'elle n'est pas forcément connue, l'ICS.
Ah oui, ICS, Institut catholique d'études supérieures. Donc c'est ce qu'ils appellent l'école universitaire. En fait, c'est l'université, mais avec un appui, un encadrement qu'on n'a pas dans le public. Moi, j'ai fait ma fac à Nantes. Je suis arrivé première année de fac de droit dans un amphi. Il y avait plus de 1000 étudiants un peu perdus. Ce qui fait qu'il y a un décrochage et qu'au mois de janvier, il y a la moitié des étudiants qui ont disparu. Et là, il y a un appui, un encadrement.
Une ambiance grande école, un peu, finalement.
Oui, une ambiance école sur les formations. Alors, c'est beaucoup sciences humaines, droit, sciences politiques, langues, mais aussi sur les matières scientifiques, biologie, mathématiques, avec le projet de créer une école d'ingénieurs au Sable-d'Olonne sur la thématique de l'eau, qui est une thématique d'actualité.
Ok, alors est-ce qu'il reste encore une ou deux questions?
Merci, Monsieur le Président.
Je vous en prie.
Parce que je suis natif à 30 000 d'ici, donc dans une périphérie de la Vendée, donc vous voyez. Et je vais vous donner une petite anecdote à propos de l'état d'esprit de l'entrepreneur vendéen. Dans les années 80, et je rajoute, vous avez dit les inégalités sociales, elles sont beaucoup plus faibles dans nos régions de Loire-Atlantique et de Vendée. Le notable, la châtelaine, elle avait peut-être des terres, mais on n'avait pas beaucoup de richesses. Moi, je suis à Lyon, je suis maintenant à Lyon dans des régions très industrielles, avec des familles de soyeux. Moi, je ne suis pas fils de soyeux. Et l'anecdote est la suivante. Dans les années 80, en Loire-Atlantique, sur toute la côte de Jade, il y avait énormément d'entrepreneurs vendéens, des petits artisans, qui venaient travailler dans notre région. Et on disait, l'état d'esprit des Vendéens, ça c'est de la bonne qualité, hein. Ils travaillent rudement bien. Et je pense que c'est un des éléments du dynamisme, hein, des petites entreprises. Monsieur l'a dit aussi, l'Église a irrigué nos régions. Hein. Voilà, je voulais vous remercier parce que vous avez... très bien brosser nos régions qui sont avec ce même état d'esprit. Et l'ICS, effectivement, j'ai été impressionné. J'ai des enfants qui sont sur Lyon et qui disent l'ICS, oui, c'est... En plus, c'est peut-être à connotation de droite, etc. En fait, vous avez su recruter, vous avez su faire venir des gens de grand renom au niveau national. Je vais vous en donner un, par exemple. L'ancien procureur général antiterroriste, du parquet antiterroriste, François Molins. Il a été enseignant pendant 6 mois à l'ICS. Donc c'est toutes mes félicitations. C'est vraiment très bien.
Merci monsieur. Le sujet c'est vrai qu'on dit souvent la question du travail bien fait. Le travail bien fait et le souci qu'on met dans son... dans son travail, à faire quelque chose de bien et pas juste à faire ses heures. Voilà. C'est un peu mystérieux parce que c'est quelque chose qui est, voilà, que c'est, mais vous savez, c'est comme dans le bénévolat, c'est souvent un peu héréditaire, ces choses-là. C'est-à-dire que vous avez vos parents sont engagés dans des associations, les enfants, pour eux, c'est presque un peu naturel, voilà, de le faire. Et donc c'est l'enjeu, c'est de dire d'abord, malgré tout, tout à l'heure le monsieur disait qu'est-ce qui va pas. C'est-à-dire que l'air de rien, le bénévolat, en France, il est un peu fragilisé, et en Vendée, il est fragilisé aussi. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal à avoir des gens qui souhaitent à prendre des responsabilités dans les associations, parce que l'individualisme qu'on connaît partout, qui bouleverse un peu notre société, on le retrouve chez nous aussi. Et donc, notre travail d'élu, c'est aussi ça, c'est de dire que comment est-ce qu'on relance le bénévolat en montrant les avantages que j'évoquais tout à l'heure, qui ne sont pas des avantages financiers, mais de dire qu'on récupère en convivialité, en fierté, etc., des choses qui ne sont pas matérielles, qui ne se monnaient pas, et ça, ça a un prix incroyable.
Eh bien, je crois peut-être alors une dernière question, vraiment.
Merci. Oui, j'ai beaucoup apprécié votre intervention.
Merci.
Je suis Ilet, né ici, pas très loin. Je suis parti faire mes études en 1968 dans un convoi en matière de curé. J'ai fait mes premières études à Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, en Loire-Atlantique. Par la suite, je suis rentré dans une grande entreprise. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'histoire locale ici, les études et tout, sont effectivement bien imprégnées. Nous étions quoi en 68? On était une dizaine à prendre le bateau. 10, 15, on n'était pas nombreux. La scolarité, les études sont un élément clé dans une vie. Que l'on soit de droite, de gauche, du milieu ou de tous bords, les études sont essentielles pour la compréhension de beaucoup de choses.
Bien sûr, bravo. Moi, je vous donne un... on m'a dit tout à l'heure que vous aviez tous les deux ans un festival ou un salon du livre.
Biennale du livre, oui. Salon du livre des auteurs de l'Île-Dieu.
Alors, c'est pas sur l'Île-Dieu, mais c'est sur les voisins de Noirmoutier. Donc, tous les étés, je fais un peu mon tour, là, et donc je rencontre des professionnels du tourisme, puis je tombe sur quelqu'un, une cabane à huîtres à la Guérinière, donc à Noirmoutier. Et puis, le patron, là, me donne deux bouquins, comme ça, deux livres, et c'est l'histoire de son père. C'est une autobiographie de son père, et le papa, il s'appelle Michel Adrien. Et c'est une histoire d'entrepreneur incroyable. Je vous conseille la lecture. C'est un garçon de la Guérinière. À 14 ans, il est parti. Il était mousse sur un bateau de pêche, etc. Et puis après, il est parti au Sénégal. Il a créé avec des bateaux congélateurs. Il a créé un groupe de plus de 2000 salariés, un truc incroyable, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie. Et il raconte ça, c'est à lire, c'est conseil de lecture. Alors pour ceux qui restent qui ont un peu de jours de vacances, profitez-en. C'est deux tomes, c'est incroyable, ça se lit tout seul. Et je trouve que c'est très représentatif du côté entrepreneuriat. Alors lui, il n'avait pas fait l'école, Michel Adrien. Il a pris des cours par la suite parce qu'il fallait apprendre à gérer une entreprise. Et c'est aussi les débuts. Notamment, il y a cette réflexion sur la ressource halieutique et comment est-ce qu'à l'époque, finalement, on pensait que la mer, on pouvait prendre autant de poissons, de crevettes qu'on voulait. Et puis c'était infini. Mais c'est une très belle histoire. Ça, c'était mon petit conseil de lecture du jour.
Voilà. Écoutez, on va s'en tenir là en vous remerciant beaucoup.